comment on protège ce commun. Et autour de ça, comment on recrée un processus démocratique qui permette la protection des droits de cet écosystème en tant qu'entité et une gestion raisonnée de cet écosystème pour en préserver le fonctionnement pour les générations futures.
Bonjour, je suis Thibaut Lamarck, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, je reçois Marine Calmet, 31 ans. Engagée pour le droit du vivant, avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones, Marine est déterminée dans son combat. Et pour transmettre son savoir et ses engagements, elle cofonde en 2019 Wild Legal, un programme annuel de transition écologique par le droit. Comment agir par la justice climatique? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Salut Marine.
Bonjour.
Je démarre toujours le podcast sur une partie perso, sur comment est-ce que tu es devenue la Marine que j'ai en face de moi aujourd'hui, d'où tu viens, tu me disais hors micro de Saint-Rémy-le-Chevreuse,
oui,
mais quel est ton parcours
Alors, moi j'ai fait une école de droit, j'ai passé mon diplôme d'avocate et j'étais déjà assez engagée à ce moment-là dans les sujets d'écologie parce que ce sujet commençait à monter pendant mes études, on en parlait de plus en plus et il se trouve que alors que j'étais rentrée en fac de droit pour faire toute autre chose, je me suis retrouvée à me dire peut-être que le droit, c'est un levier très concret pour faire ma part. Donc, je me suis engagée très rapidement. Et une fois mon diplôme d'avocate en poche, je m'étais dit « Ah, super, ça y est, enfin, je vais pouvoir m'investir, protéger et défendre David et faire tomber Goliath. » Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. J'ai fait des entretiens d'embauche dans les meilleurs cabinets d'avocats parisiens qui s'autoproclamait du coup cabinet en protection de droits de l'environnement. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, tous ces gens-là défendaient malheureusement les grandes multinationales, les grosses entreprises qui détruisent aujourd'hui la planète. Et donc, j'ai eu la chance et un peu le hasard de la vie qui m'a conduit jusqu'en Guyane française, où je me suis engagée dans la lutte contre les projets miniers et pétroliers.
C'est-à-dire que tu postules dans les cabinets d'avocats et tu ne donnes pas suite ou ils ne donnent pas suite ou vous ne donnez pas suite?
En fait, on se rend compte dans les cabinets d'avocats, quand les gens lisent à nouveau mon parcours, qu'en fait, je suis déjà en train de défendre les opposants de leurs clients et que donc, il va y avoir un conflit d'intérêts qui va rendre impossible, en fait, un travail commun. Et donc, c'est, en bon terme, qu'on se quitte à chaque fois sans se dire au revoir.
Et qu'est-ce qui donne cet engagement? Enfin, ça vient d'où? Tu as des...
Moi, j'ai un père biologiste qui m'a appris à respecter, à observer, à chérir la nature.
Ouais.
Et puis, j'ai une sensibilité très forte pour les injustices. C'est quelque chose qui me révolte, qui me relève la nuit. Et le fait qu'on se conduise aujourd'hui comme ça vis-à-vis du vivant, c'est, je trouve, une des injustices de notre siècle vis-à-vis de tous ces non-humains qui ne peuvent pas se défendre et qui subissent nos comportements prédateurs.
T'as des frères et sœurs?
Ouais, un petit frère.
Ouais, qui est comme toi.
Qui est sauveteur en mer, ouais.
Ouais. Mmh. Où ça?
À Saint-Mandrier-sur-Mer.
Et c'est où, Saint-Mandrier-sur-Mer?
C'est en face de Toulon.
En face de Toulon, ouais. Ok. Donc, tu te retrouves en Guyane?
Voilà.
Donc, tu débarques...
Complètement.
Et donc, c'est-à-dire tu prends un billet d'avion?
Alors,
one way.
Je trouve les financements, je prends un billet d'avion et je pars en Guyane en me disant, là-bas, je vais peut-être trouver des réponses à pourquoi notre droit est comme ça, sur quel fondement on a bâti notre société. Et en travaillant avec les peuples autochtones de Guyane, je me rends compte à quel point on peut construire des sociétés complètement différentes, reposant sur des textes non écrits, beaucoup plus simples et découlant en fait d'un comportement vis-à-vis du vivant beaucoup plus respectueux.
Une relation à la nature?
Une relation à la nature, un respect des règles non écrites, un droit coutumier qui instaure un équilibre, du coup, entre les humains et les non-humains. Et c'est ça qui est intéressant dans la Guyane, et j'en ai écrit un livre qui m'a marqué parce que la Guyane, c'est à la fois un laboratoire pour le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une politique néocoloniale, extractiviste, des industries minières et pétrolières qui s'installent sur ce territoire comme si c'était sur le Far West, et en même temps des peuples autochtones qui résistent, qui montrent que leur identité, leur culture est plus forte que tout ça.
Et alors, peut-être juste plus pratiquement, pour que nos auditeurs puissent se projeter. Donc, tu débarques, donc tu as levé un peu d'argent, tu as monté une association?
J'ai levé un peu d'argent pour une association, effectivement, et je suis partie.
Et quand tu débarques, tu connais personne?
Je connais un réseau d'acteurs locaux avec qui je travaille déjà depuis quelques mois, puisqu'en fait, je n'ai pas attendu de trouver l'argent pour commencer à les défendre. Donc, je suis devenue porte-parole d'un collectif hors de question contre la Montagne d'Or. Et je m'investis aux côtés des peuples autochtones, notamment dans la restitution de leurs terres, spoliées par la colonisation, pour récupérer justement 400 000 hectares voulus par les organisations autochtones pour protéger justement les territoires amérindiens.
Et donc, c'est cette association, finalement, qui te met à disposition son réseau et c'est...
Exactement. Voilà, okay. Exactement. Et donc, les 4 premiers mois, je fais que écouter, essayer de comprendre comment fonctionne le droit coutumier, sur quel fondement, quelle est l'idée, en fait, quelle est la vision politique que partagent ces peuples. Une vision d'égalité entre tous, humains et non-humains. Une vision résistante, une vision anticapitaliste. Et anti-extractive, et c'est cette vision du monde qui nourrit mon travail depuis lors, en fait.
Le droit coutumier, moi, je ne l'ai pas rencontré beaucoup. Je l'ai rencontré en Nouvelle-Calédonie.
Ah oui, très bon exemple.
Avec les Kanaks. Ouais. Et à l'époque, je travaillais pour Veolia Transport. Et effectivement, je dois dire que la rencontre entre une multinationale et le droit coutumier était extrêmement complexe, voire impossible. Puisque tout est différent, les rythmes, les codes, les...
C'est ça. Irréconciliable parce que vraiment fondé sur deux visions du monde. C'est-à-dire que quand vous avez d'un côté des gens qui ont la connaissance depuis toujours une connaissance ancestrale, ils appartiennent à la Terre face à des gens qui pensent que la Terre leur appartient. On a deux visions du monde qui sont tellement diamétralement opposées qu'on se retrouve dans un débat de sourds, en fait. Nous, on l'a eu notamment dans le projet Montagne d'Or. Vous avez des personnes qui pensent que parce qu'ils ont une concession minière sur un territoire, ils peuvent tout faire, tout déforester, tout creuser, tout polluer. Et face à eux, vous avez des peuples autochtones qui disent « Mais c'est nos terres, c'est là où sont enterrés nos ancêtres, c'est là où coule l'eau sacrée, c'est là où résident les esprits de la forêt. » Et en fait, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Nous, on ne vient pas déterrer vos cimetières chez vous. Et c'est tellement puissant, en fait, comme rencontre que... Le débat, en fait, s'est arrêté là, et on a gagné face à Montagne d'Or à cause de discours très simples, d'une humilité totale, d'un accord avec la nature passé par ces peuples autochtones et ces sociétés traditionnelles depuis des millénaires. Donc, ça a été très puissant et ça a vraiment investi mon champ ensuite d'action dans tout le travail qu'on mène avec Wild Eagle en France.
Ça, c'est quelle année, la victoire ?
Disons, la première étape de la victoire, c'était 2019. À force de militer, on a réussi à forcer Emmanuel Macron à renoncer à ce projet Montagne d'Or dont il avait été l'instigateur, en fait, depuis son passage à Bercy. Non seulement il a dû y renoncer, mais il a dû le faire publiquement à la tribune de l'ONU. Donc ça a été une grande victoire pour nous, une victoire qu'on n'aurait pas espérée quelques années auparavant. Et on continuait à se battre, évidemment, pour l'arrêt définitif, en fait, de toute forme d'industrie minière sur le territoire amazonien, parce qu'on en a besoin aujourd'hui si on veut protéger à la fois les ressources en eau et puis ce poumon vert, en fait, pour notre planète.
Donc, militer, ça marche.
Militer, ça marche. Se mobiliser, ça marche. Les nuits blanches, ça marche.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de Wild Eagle ? C'est quoi, Wild Eagle ?
Wild Eagle, c'est né beaucoup de ça. Disons qu'après toutes ces années de lutte en Guyane, parce qu'après Montagne d'Or, on a réussi à se battre contre les projets pétroliers de Total qui sont venus forer dans le récif de l'Amazone, en large de Kourou. Donc une grosse mobilisation aussi. Et je dois dire que j'y avais mis tellement d'énergie. En fait, dans la vie, c'est un peu le yin et le yang, quoi. J'avais mis beaucoup d'énergie yang. J'avais besoin de beaucoup d'équilibre pour rééquilibrer tout ça, en fait. J'avais besoin de créer quelque chose de positif. Et Wild Eagle, c'est venu pour moi quelque chose de positif dans le sens où j'avais envie de proposer un autre modèle juridique, de travailler à des lois concrètes qui évitent justement qu'on se retrouve à nouveau dans cette situation. Et pour ça, l'idée est venue de monter une école d'enseigner les droits de la nature, qui est un mouvement mondial, mais qui était encore assez peu connu en France. Donc de l'enseigner et d'être à la fois un incubateur. Écrire de nouvelles lois, faire travailler les élus, faire travailler les acteurs de territoire pour monter des expérimentations locales et faire en sorte que ça vienne de la terre. Et donc du coup, Wild Eagle, c'est vraiment un catalyseur de toutes ces énergies d'avocats, de professeurs, d'étudiants, de juristes, de militants qui s'engagent pour ce mouvement.
Tu me parlais tout à l'heure de droits prospectifs. Tu peux nous dire ce que ça veut dire ?
Ça veut dire un droit d'anticipation. Ça veut dire que nous, on écrit un droit qui existera dans le futur. On écrit un droit qui n'est pas positif. Positif, c'est le droit actuel, mais qui ouvre une fenêtre vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on écrit un droit qui est encore à l'état d'embryon, d'idée, d'utopie réaliste, et on veut le concrétiser, on se donne les moyens de le faire.
Comment concrétiser cette lutte ou cette action ? Je ne sais plus quel était ton terme, mais... Vous êtes combien au démarrage de Wild Eagle ? Comment est-ce que vous vous rencontrez et qu'est-ce qui donne l'étincelle ?
On se rencontre tous à Climax, un festival à Bordeaux qui a lieu chaque année et qui rassemble des personnes venues de partout dans le monde qui travaillent à la protection de la nature, des peuples autochtones, des hydrologues, des scientifiques, des juristes. Et il se trouve que avec Valérie Cabanne, qui est une juriste, avec William Bourdon, qui est avocat spécialiste dans la criminalité économique, avec justement les fondateurs de Climax, Darwin Coalition, avec Simon Rossard, qui travaille à l'époque comme curateur artistique pour ce lieu, on phosphore, on y met tous notre cœur et on se dit, voilà, il nous faut un outil holistique qui aborde à la fois la transmission, la création, l'élaboration et l'application d'un droit complètement différent pour nous donner des outils justement pour agir. Et c'est là qu'on crée Wild Legal, qui est vraiment ce catalyseur d'énergie sur les droits de la nature et qui a vraiment pour ambition d'explorer toutes ces facettes pour tous les publics, en fait, de créer la trousse à outils qui nous permettra de faire que ce droit qui est aujourd'hui prospectif se réalise le plus vite possible.
Donc concrètement, vous imaginez le droit du futur, donc le droit non pas de l'environnement, mais le droit à la nature, à être une personne morale. Comment ça marche concrètement? Enfin, qu'est-ce qu'on fait le lundi matin quand on se réveille avec cette idée?
Alors, on a plein de campagnes en fait en cours. Notre projet et le programme de formation derrière, il est annuel, c'est-à-dire que chaque année, on organise un nouveau programme de procès simulé grâce auquel on forme nos étudiants. On a des promotions de Wild Legal chaque année sur des sujets qui touchent en fait à des scandales écologiques et sanitaires récurrents. L'année dernière, par exemple, on a adressé le problème de la personnalité juridique des animaux, de leurs droits fondamentaux à travers le procès de l'élevage intensif breton et des algues vertes. On veut faire le lien entre les droits fondamentaux des individus non humains, et notamment des cochons, l'élevage intensif.
Mais pourtant, c'est du porc français. Enfin, le porc français est très réputé.
Oui, tout à fait. Et réputé pour ses impacts aussi, puisque malheureusement, la France cumule les carences dans la protection de l'eau en Bretagne et a été condamnée à deux reprises déjà pour non-respect des normes sanitaires européennes dans la protection de l'eau. Nous, on pense que la relation qu'on a aux animaux, mais aussi à nos écosystèmes, nous amène dans le mur directement, et que c'est en prenant le problème à la racine, on s'est arrogé le droit d'utiliser, d'exploiter autrui à un rythme complètement indécent aujourd'hui, c'est-à-dire la production animale sur le territoire breton est concentrationnaire et provoque du coup, enchaîne un désastre écologique, sanitaire, humain et non humain. Que ce soit d'ailleurs pour le rythme de travail des personnes qui travaillent en abattoir et qui ont des conditions de travail plus qu'indécentes, comme pour les personnes qui en sont les victimes directes, les habitants de la Bretagne, humains et non humains, ceux qui vivent sur le littoral et ceux qui y meurent, eh bien, on pose ces questions-là par le biais de procès simulés. Ça nous donne l'opportunité de montrer les lacunes du droit telles qu'elles sont actuellement.
Donc là, c'est un faux procès.
C'est un faux procès sur une période d'un an. Notre but, c'est de former les nouvelles générations d'étudiants en droit à ce qu'ils deviennent de vrais gardiens des droits de la nature, la nouvelle génération d'avocats qui ont ces outils juridiques pour agir. Ça nous permet aussi d'être un média, c'est-à-dire qu'on renvoie par le biais d'un procès simulé l'image de ce que pourrait être le droit demain si justement on se dotait de ces droits de la nature dans nos textes fondamentaux, dans notre constitution, dans nos lois et autres. On permet à des personnes qui sont pas forcément juriste, de comprendre les enjeux. Parce que si on vient simplement avec des textes de loi et qu'on expose de grandes théories, très souvent c'est difficile à saisir. Parce que les gens, ce qu'ils ont envie de comprendre, c'est quel est l'impact concret que ça va avoir sur notre société de reconnaître des droits aux animaux, de reconnaître des droits à un fleuve, de reconnaître des droits à une forêt. Et donc, par le biais de ces procès simulés, on rend visibles ces théories juridiques, on peut passer un message.
Cette année, qu'est-ce que c'est le procès ?
Cette année, on va travailler sur l'impact des projets d'éolien offshore sur le littoral breton et de l'incompatibilité de certains projets, du coup, avec la protection notamment des oiseaux du littoral et des espèces mammifères. Donc, on travaille toujours en partenariat avec des associations de terrain. Cette année, ça sera avec Sea Shepherd France qu'on va mener ce procès simulé pour montrer l'incompatibilité juridique, mais aussi éthique, philosophique, entre un développement à outrance et sur certains territoires ultra sensibles du littoral et l'industrie de l'éolien offshore. C'est un sujet extrêmement sensible qu'on va essayer de rendre le plus pédagogique possible parce que le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on comprenne aujourd'hui ces dossiers très techniques que sont le développement de l'éolien et donc la filière énergétique française et en même temps le besoin absolu de protéger des espèces qui sont en voie de disparition sur notre territoire.
On sort d'un été catastrophique au niveau de la ressource en eau. On parle d'un hiver catastrophique au niveau de la ressource en électricité. Il y a la moitié des réacteurs nucléaires là, qui sont arrêtés. Il me semblait que l'éolien onshore ou offshore dans le panel énergétique une bonne ressource. Est-ce que tu as une position personnelle là-dessus?
C'est pas une position personnelle, je reste à la position des scientifiques sur le sujet. Le Conseil national de protection de la nature a émis un avis sur l'implantation de l'éolien offshore sur le littoral et notamment sur le littoral breton et constate tout simplement que le déploiement massif de cet éolien offshore à une proximité telle des côtes françaises qu'elle est incompatible avec la sauvegarde des espèces en danger.
C'est un problème d'emplacement.
C'est un problème notamment d'emplacement. Si on éloigne les sites sur lesquels sont implantées ces éoliennes, on réduit drastiquement l'impact sur la biodiversité, notamment des oiseaux nicheurs ou d'autres espèces animales qui sont présentes sur les sites.
C'est quoi votre business model? Donc, il y a des promos?
Donc,
c'est l'entrepreneur qui parle.
On n'a absolument aucun business model. On s'est lancé là-dedans en vivant tous d'amour et d'eau fraîche, comme Castelli peut-être. Disons qu'on a beaucoup de gens qui y croient, qui croisent notre route et qui nous soutiennent. Et ça, c'est un gros avantage. On a aussi un sujet qui est en train de percer. On était avant une niche et on commence à être enfin reconnu pour le travail qu'on fait. Et donc, j'espère que ça va faire venir de plus en plus de soutien vers nos campagnes. On a une très belle campagne en ce moment sur les droits des rivières sauvages en France, avec le réseau des rivières sauvages. Et on espère, par le biais du financement, notamment financement citoyen. On a une page de crowdfunding, on espère justement faire avancer la cause auprès des personnes engagées sur le terrain pour la protection de l'eau.
Donc tout le monde peut vous donner de l'argent?
Tout le monde, absolument tout le monde. On prend les dons, on prend les soutiens et on fonctionne à l'énergie humaine. On est des petits écureuils, on n'a pas besoin de grand-chose et on fait beaucoup de choses avec.
On en est où là du droit de la nature?
Alors, le droit de la nature, en fait, ça remonte aux années 70. Ça a été théorisé en 1972 par Christopher Stone, un universitaire américain, qui pour la première fois, dans un procès qui opposait Walt Disney à une association qui s'appelle le Sierra Club, qui est une des associations historiques aux États-Unis sur la protection de l'environnement, se pose la question. Parce que Walt Disney veut implanter un parc de divertissement dans une vallée où poussent des séquoias géants. Si les associations écologistes ne peuvent pas parler au nom des forêts, est-ce que les arbres doivent se défendre eux-mêmes en justice? C'est dans une affaire bien particulière.
Parce que l'association n'avait pas pu
les défendre, exactement. Le juge américain avait une lecture très restrictive dans cette affaire du d'intérêt à agir des associations et avait refusé à l'association Sierra Club la possibilité d'agir au nom de ces séquoias, au nom de la protection de la nature, en fait. Et du coup, Christopher Stone, par un peu avis contradictoire, a dit « Mais alors, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider ?» Et c'est le nom de cet article qui lance cette réflexion juridique, un vrai mouvement qui aujourd'hui est planétaire, puisque ensuite s'ensuit en 2008 la reconnaissance des droits de la nature dans la constitution de l'Équateur. Ça prend en fait aujourd'hui de manière exponentielle à travers le monde entier où justement on obtient des victoires fulgurantes comme par exemple la dernière en Espagne puisque ça y est nos voisins espagnols ont posé la première pierre. C'est le premier territoire européen à reconnaître des droits à la nature suite à une mobilisation de plus de 600 000 citoyens espagnols. Le Congrès espagnol a été saisi d'un projet de loi pour la reconnaissance des droits de la Mar Menor, qui est la plus grande lagune d'Europe, extrêmement impactée par les implantations d'agriculture et notamment d'élevage intensif. Eh bien, le Congrès espagnol a voté à la quasi-unanimité la reconnaissance des droits de cet écosystème.
Et donc, ça a été voté, donc c'est en place?
Ça y est, oui, ça va être voté fin septembre définitivement. Le projet de loi, lui, il est déjà connu et il a été validé, en tout cas, sur le principe, par le Congrès espagnol.
Et est-ce qu'on peut imaginer une transposition européenne dans ce sens-là?
Oui, on l'espère. J'ai déjà écrit une directive pour la réforme de la directive cadre sur l'eau, qui encadre donc les activités, notamment humaines, donc sur les écosystèmes et les bassins hydrologiques français et européens. Et on espère qu'à terme, évidemment, on aura une directive qui viendra finalement légiférer pour harmoniser tout ça au niveau européen. En attendant, moi, je considère, et c'est notre stratégie dans l'association, qu'il faut s'infiltrer par les territoires et que ça remontera. Nous, on est dans une démarche d'accompagnement. Il vaut mieux accompagner et convaincre plutôt que contraindre. Pour le moment, on porte un processus d'expérimentation sur des territoires à l'échelle française, justement pour montrer l'efficacité de nos propositions sur des écosystèmes qui en ont besoin en France, comme les petites rivières sauvages avec cette campagne pour les droits des rivières.
Est-ce que tu peux nous parler des rivières sauvages ?
Alors, donc, c'est une campagne qu'on a lancée pour les rivières sauvages. Il faut savoir qu'en France, il reste moins de 20% de rivières sauvages, dans le sens où la plupart des écosystèmes aquatiques français ont été artificialisés, soit pour devenir des voies navigables, soit parce qu'on a posé des barrages hydroélectriques, soit parce qu'on pose d'autres installations de captage de l'eau. Et en fait, cela a un impact direct sur leur fonctionnement, sur le cycle de l'eau, sur la continuité écologique, le déplacement des poissons, etc. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un enjeu à faire reconnaître ces écosystèmes comme des personnes dotées de droits fondamentaux pour en protéger les droits.
Il reste combien de rivières qui sont complètement sauvages ? Est-ce qu'on peut dire qu'une rivière est complètement sauvage de la source à la mer ?
C'est extrêmement compliqué, surtout sur de grands écosystèmes. Évidemment, la plupart des grands écosystèmes, comme la Garonne, comme le Rhône, sont 100% artificialisés et impactés par toutes les industries polluantes qui sont sur leur cours. Par contre, il reste encore des petits écosystèmes, notamment dans les montagnes, tout ce qui est rivières de torrents, sources, qui sont encore préservés de certains impacts anthropiques. Et là, on peut encore agir pour éviter soit l'implantation de nouveaux projets et préserver, face au réchauffement climatique, face aux pollutions, ces écosystèmes pour rester justement préservés.
Alors, vous en êtes où là, avec le projet Rivière Sauvage ?
Donc, on a lancé cette campagne il y a un an et on a mené donc une première, un premier défrichage. Quels sont les enjeux ? Quels dangers font face en fait ces écosystèmes ? Cet été, par exemple, on s'est rendu en Savoie et en Haute-Savoie, justement pour travailler sur, donc c'est notamment sur le Chéran et le Nambénin, qui sont deux rivières de montagne qui font face au réchauffement climatique, à la disparition des glaciers et donc à la raréfaction de l'eau, qui font face à des projets de barrages hydroélectriques, de captage en eau potable, avec le développement aussi d'un tourisme l'hiver. Malgré la disparition des glaciers et parce qu'il faut donc produire de la neige de synthèse, des vrais conflits d'usage qui deviennent épidermiques sur ce territoire et des conflits réels en perspective entre les agriculteurs, les élus dans les villes, les habitants, les professionnels du tourisme et tout ce petit monde. Nous, on voudrait les rassembler justement pour dire parlons déjà de la rivière. Comment on protège ce commun ? Et autour de ça, comment on recrée un processus démocratique qui permette la protection des droits de cet écosystème en tant qu'entité et une gestion raisonnée de cet écosystème pour en préserver le fonctionnement pour les générations futures. Et donc, c'est vraiment un enjeu de ce siècle de se poser la question de plus que nous, êtres humains. La question est de savoir aujourd'hui comment on rend à la rivière, comment on préserve la rivière, quels sont ses droits et comment on réorganise notre démocratie pour préserver les droits des autres que humains.
Tu parlais de mettre autour de la table et de mettre d'accord finalement des intérêts particuliers divergents. Est-ce que quand tu vas les voir un à un, donc pas autour de la table, mais un à un, tu arrives déjà à avoir une tendance ?
Ce que je vois, c'est qu'on est pris au sérieux parce que les gens sentent que dans le droit actuel, il n'y a pas les clés. Il n'y a pas les clés pour faire face aux problématiques de réchauffement climatique, à la fonte des glaciers, à la raréfaction des ressources en général. Et que dans le mouvement des droits de la nature, il y a une logique qui découle justement du fonctionnement du vivant, qui va nous permettre justement de trouver des réponses qui soient tout simplement de bon sens vis-à-vis justement de la protection de ces écosystèmes, mais de la préservation de l'habitabilité de nos territoires en fait. Parce que notre discours est de dire les lois humaines, les lois du marché, elles sont en contradiction flagrante avec le fonctionnement des écosystèmes.
Ce qui est sûr, c'est qu'on a découvert à l'été 2022 que l'eau n'était pas une évidence et n'était pas abondante.
Exactement. L'eau, c'est pas juste un milieu aquatique, c'est la source de toute vie sur Terre. On est sorti de l'eau, on a besoin de l'eau à chaque moment de notre vie, on est constitué, la majeure partie de notre corps est constituée d'eau. Notre corps retourne à la rivière, une partie de cette eau vient de la rivière et y retourne. Il faut intellectualiser le fait que l'eau n'est pas un objet, n'est pas une ressource, mais l'eau est la condition sine qua non de toute vie. Et donc, du coup, on ne peut pas s'adresser à ces problématiques sous l'angle, justement, de la gestion d'une ressource exploitable. Il faut intellectualiser aussi un rapport éthique vis-à-vis de l'eau, qui est absolument essentiel. Et pour ça, il faut absolument reconnaître la personnalité de ces écosystèmes, que ce soit la source, que ce soit l'embouchure, les estuaires, l'océan. Vous savez, par exemple, dans notre droit, donc dans la directive cadre sur l'eau, la directive qui justement encadre la protection des milieux aquatiques, eh bien, il n'y a même pas le terme de glacier, il n'y a même pas le terme de réchauffement climatique dedans. Alors même que c'est exactement ça qui va probablement mettre en péril justement tout le cycle de l'eau sur ces écosystèmes alpins et puis sur l'ensemble des grands fleuves comme le Rhône, qui vont être directement impactés par la disparition des glaciers d'ici la fin du siècle. Donc il y a une vraie urgence à réintellectualiser la question de l'eau dans son ensemble comme cycle de vie.
Est-ce que tu te considères comme radical ? Et est-ce que parfois il faut désobéir pour se faire entendre ?
Moi, je parle beaucoup dans mon livre de désobéissance créatrice, parce que je crois que malheureusement, il faut voir que le droit est une fiction. Le droit, il est à un instant T, une réalité donnée par des êtres humains qui votent des lois. Ces lois, elles changent au quotidien. Donc si aujourd'hui, on peut considérer que j'appelle à désobéir, demain, le droit prospectif que j'appelle à écrire sera la nouvelle norme.
Et donc finalement, on ne désobéit pas.
On ne désobéit pas, on anticipe sur l'avenir.
On réécrit le droit.
Je ne désobéis pas, j'anticipe. C'est pour ça que je parle de désobéissance créatrice, parce que oui, aujourd'hui, on est face à des lois injustes, des lois qui ont été écrites par une toute petite catégorie de personnes pour justement s'arroger la propriété sur des ressources qui sont vitales pour le reste, des humains et des non-humains. Et ça, il faut absolument désobéir. Quand on est face à des lois injustes, la Constitution d'ailleurs nous y autorise, désobéir pour se libérer des lois injustes, c'est absolument essentiel. J'appelle à le faire dans quelque chose de positif.
Donc déroger à la loi, finalement, pour protéger les communs, protéger la vie de demain, la vie ensemble entre être humain et la nature.
Oui, et puis en fait, dans notre travail, ce qui est très intéressant, c'est aussi d'aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des oasis et de la gestion de l'eau des oasis, du coup, dans la vallée du Drâ, au Maroc. C'est très intéressant de voir comment des peuples qui avaient une dépendance totale vis-à-vis de l'eau, parce que quand vous vivez dans le désert, votre vie, votre survie est conditionnée par votre accès à l'eau. Comment des peuples, avec un savoir millénaire, se sont organisés justement pour avoir une bonne répartition de l'eau, pour survivre et aussi préserver leurs ressources. Et grâce à ce droit non écrit, grâce au secrétaire de l'eau, grâce à un partage juste et équitable des ressources, on peut justement permettre à des civilisations de prospérer dans des lieux extrêmement inhospitaliers. Or, c'est exactement ce à quoi nous allons faire face dans les années qui viennent. Et je pense que plus que jamais, le message de dire qu'il faut écouter les civilisations ancestrales, des savoirs millénaires sur la gestion de l'eau, les communs, protéger les ressources et leur reconnaître des droits, et bien c'est vraiment le moment ou jamais de se saisir de ces outils, de ce bon sens ancestral, de ces traditions, pour réécrire notre droit qui s'est faussement émancipé du fonctionnement du vivant et qui aujourd'hui se prend une claque monumentale par rapport justement à la rarification de la ressource en eau.
Est-ce qu'on a le temps ?
Je pense qu'on a le temps. En fait, moi, je ne fais pas le pari du chaos. Je fais le pari, justement, d'une transition juridique qui nous permet de nous maintenir aussi en tant que société. C'est-à-dire que le contrat...
C'est la juriste qui refait surface.
Ben oui, mais moi, je suis juriste et j'aborde pas ça sous un angle autre que juridique. Je veux dire, je pense que le droit doit être couplé à l'éthique pour réfléchir à des sorties par le haut. Parce que malheureusement, les conflits autour de l'eau sont les conflits qui déclenchent des guerres hein, partout dans le monde. Je ne souhaite pas ça sur le territoire français, vraiment. C'est-à-dire que les gens sont prêts à mourir pour les ressources en eau. C'est ce qui déclenche des guerres partout en Afrique et partout dans le monde. Les soulèvements en Amérique latine, les soulèvements notamment comme il y a eu au Chili et dans beaucoup d'États, sont liés à la question de l'eau. La question et le pari que nous faisons avec Wild Eagle, c'est de trouver une sortie par le haut de ces conflits à venir. On souhaite préserver en fait l'habitabilité de notre territoire, c'est préserver la paix. Et donc, il serait vraiment urgent de se mettre autour de la table pour justement garantir qu'il n'y ait pas de conflit entre les êtres humains et avec le vivant à l'avenir.
C'est qui les acteurs ou les actrices engagées qui t'inspirent, même si à t'écouter, finalement, tu fais partie de ces activistes qui permettent à tout à chacun de s'identifier ou en tout cas de se projeter. Est-ce que tu as des gens, toi, qui t'inspirent ?
Moi, j'ai rencontré pas mal de Galilées, ouais, de personnes qui m'ont fait cogiter et fait prendre conscience de cette révolution copernicienne qui était absolument nécessaire. J'ai beaucoup travaillé en Guyane française, je disais, avec des gens qui sont vraiment à l'avant-garde de cette nouvelle vision. C'était comme Christophe Pierre, comme Alexis Tchouka, qui sont des acteurs vraiment engagés de la cause autochtone amérindienne de Guyane. mais aussi des acteurs sur le territoire français comme Valérie Cabanne, qui est aussi membre fondateur de Wild Eagle, qui est une juriste qui travaille depuis des années pour faire reconnaître le crime d'écocide justement devant la Cour pénale internationale. C'est des personnes qui, une fois qu'on les croise, provoquent un tel déclic dans la tête, on peut pas revenir en arrière. Et c'est ça que j'essaye de provoquer avec les droits de la nature. C'est un déclic qui met tellement en question votre vision du monde, votre rapport au vivant, qu'en fait, une fois qu'on l'a posé sur la table, ce débat ne peut plus être évité. On doit l'avoir, ce débat.
Il y a des lectures qui t'ont éclairé ?
Non, c'est travailler à leur côté, faire en sorte que leur combat soit porté, soit entendu et prendre la relève parfois aussi quand il s'agit de remettre de l'énergie, retourner au fight. Donc c'est vraiment la réalité, c'est que aujourd'hui ceux qui protègent nos forêts en Guyane française, c'est des postiers à la retraite, des profs de shiatsu, des autochtones, un savant mélange d'autonomistes, de mouvements décoloniaux. On a un nombre de gens absolument incroyable aujourd'hui qui, de manière insensée, luttent comme des fous pour faire tomber des projets de barrages monstrueux, faire en sorte que des aéroports qui ont des impacts climatiques toxiques pour nos territoires ne voient pas le jour, qui traduisent en justice des grands pollueurs alors qu'ils y laissent leur santé, leur famille et leur travail. Enfin, c'est ça, en fait, la réalité du terrain aujourd'hui. Moi, j'aimerais pouvoir donner justement aux jeunes et aux moins jeunes l'envie de y aller, parce qu'en fait, c'est vraiment notre responsabilité. C'est là que tout se joue aujourd'hui.
Si t'es ministre de l'écologie, ce serait quoi ta première mesure ?
La création d'une haute autorité aux limites planétaires, une autorité qui mêlerait le scientifique et le politique pour conseiller l'ensemble de nos classes dirigeantes aujourd'hui qui malheureusement délaissent la science et qui oublient le temps long. Donc c'est une proposition qu'on a formulée avec Wild Eagle aux côtés de la Convention citoyenne pour le climat, qui serait en fait de créer une haute autorité qui permettrait d'avoir une analyse de tous nos lois, de nos règlements, de nos programmes sur les territoires à travers ce prisme des 9 limites planétaires pour savoir s'ils sont viables ou non. Et ça me semble être une évidence, en fait, qu'il faut absolument avoir ce genre de bilan écologique sur l'ensemble de nos lois si on veut avoir une idée de l'impact qu'on a sur nos territoires. C'est pas le cas aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on fait pour maintenir un équilibre vie pro, vie perso, quand on vibre comme ça devant quelque chose d'aussi urgent, important ?
Mon engagement, il est directement lié au fait que je suis aussi une maman. Hein. Donc, je me bats pour moi, je me bats pour mon enfant, je me bats pour le vivant en tant que tel. J'ai un attachement très, très fort à la nature, mais c'est aussi parce que, justement, je suis capable de me mettre à la place des autres. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'un jour mon fils vienne me voir en disant « Qu'est-ce que tu faisais à l'époque où tout ça, on le savait déjà, tous ces rapports, ils existaient déjà, qu'est-ce que tu étais en train de faire ?» Moi, je lui dirais « J'ai fait tout ce que j'ai pu. » Aujourd'hui, on peut encore éviter le pire, j'en suis vraiment persuadée, à condition de vraiment prendre en main un changement drastique et radical de notre société, de faire un virage à 180, parce que malheureusement, vraiment, on va dans le mauvais sens. Donc il y a un moment, ça vous prend aux tripes et vous pouvez plus tourner la tête et faire comme si ça n'existait pas.
Qu'est-ce qui te donne de l'énergie ?
Nos petites victoires. Le fait qu'aujourd'hui, le mouvement des droits de la nature est en train de devenir un vrai outil de transition. C'est-à-dire que l'ADEME en parle, énormément d'autres acteurs du territoire, des parcs, des réserves, nous contactent pour nous demander comment est-ce qu'on met les droits de la nature dans nos chartes, dans nos textes, comment on réorganise, par exemple, au sein d'un syndicat de gestion des eaux, la gouvernance pour pouvoir protéger cet écosystème de manière plus durable. Moi, je respire parce qu'enfin, on est entendu et notre enjeu pour nous, c'est de passer à l'échelle. Pour Wild Eagle, c'est de grandir pour pouvoir faire face à la demande. C'est un problème de riche, quoi. Donc, on a besoin de soutien, on a besoin de soutien financier, on a besoin de mécènes, on a besoin de tout un tas de choses pour nous permettre d'avoir vraiment cette transition qui soit opérée. Parce qu'au fait, aujourd'hui, on a plus de demandes que de bras pour répondre à la demande. Et donc, c'est génial, quoi.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?
Ce que je nous souhaite, c'est de réussir une transition qui se passe dans le respect du vivant, c'est-à-dire vraiment humain et non humain. Humain pour nos équipes, pour trouver les meilleures énergies possibles pour réussir ce changement d'échelle au sein de Wild Eagle et d'attirer du coup des bonnes énergies, des personnes convaincues et motivées. Et puis pour les non-humains aussi, parce que c'est un combat qui en fait a pour ambition de les représenter eux, de leur donner une place dans notre société. Donc c'est un combat qui nous dépasse et c'est aussi pour eux qu'on le fait.
Eh ben merci beaucoup Marine.
Merci pour l'invitation.
J'étais très touché et j'avoue que c'est une belle rencontre. Je pense que ce qu'il y a de magique avec les juristes, et ma femme est juriste, donc je dis ça parce que je vous connais bien, c'est que quand vous faites du plaidoyer, vous le faites de manière toujours très organisée et avec des objectifs assez clairs. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est ce passage à l'échelle et puis cette capacité que vous aurez à influencer nos hommes politiques, enfin nos gouvernants et puis les organisations, puisque on a besoin de changer les deux.
Changer les règles du jeu pour tout changer.
Bonne route.
Merci.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.